je voudrais tout d'abord remercier Monseigneur et vous tous, le diocèse, de m'avoir invité. Car je suis un invité aujourd'hui, je dois souligner que je suis toujours prêtre de l'église russe du diocèse de Grande-Bretagne. Je suis à la retraite, donc je ne participe pas aux événements dont vous avez entendu parler probablement. Je suis comme personne privée sur le terre de la douce France maintenant. J'habite en Auvergne. Le sens théologique et spirituel du repentir. Dans mon exposé, je ne vais pas toucher à la confession. Mon thème, c'est le repentir. La dynamique du repentir se place entre le péché, qui vient du mal et qui mène à la mort spirituelle et physique, et après, le pardon qui vient de l'amour de Dieu qui transforme l'homme. En venant sur terre, Jésus a assumé la nature humaine, corps, âme, esprit, pour nous montrer dans sa vie d'homme qu'il nous est possible de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de réaliser pleinement l'image permanente et divine qui est en nous dès la création, une image de gloire, celle de la transfiguration. Malheureusement pour nous, cette vision lumineuse est déformée par une force maléfique, qu'elle soit au-dedans de nous ou ailleurs, qui nous fait dévier du but parfait. La présence du glorieux divin auquel nous étions appelés n'est plus évidente, à cause de la déchéance spirituelle et physique dans laquelle nous avons échoué. Le mal est parmi nous, il est au-dessus de nous, il est au-dedans de nous. Mais il ne faut pas désespérer, car dès le début, l'emprise de la déchéance n'a pas été absolue. En effet, l'homme reste capable de deux sentiments majeurs, le don du sublime et le don de l'humilité. Dans le sublime, l'homme se rappelle qu'il vient de Dieu. Dans l'humilité, il sait qu'il n'est que créature. Dans cet état d'esprit lucide, l'homme devient capable de comprendre ce que, dans le récit de la chute au paradis, la révélation lui enseigne. L'homme s'est détaché de la communion constante qu'il avait eue avec Dieu. Cependant, l'homme n'est pas entièrement détruit, il est simplement défiguré. Il conserve le don de la joie et de la communion. Il conserve l'espérance. L'image que Dieu avait implantée en lui reste en lui, mais elle est devenue ternie, souvent peu reconnaissable, floue et informe. Ce paradoxe est expliqué par la présence du péché décrit dans la Bible et que nous reconnaissons en nous-mêmes. En conséquence, nous naissons dans la déchéance. Nous ne pouvons plus l'éviter, car le péché du monde est plus grand que nous et il nous précède dans le temps. Nous échouons dans une situation de déséquilibre que nous ne choisissons pas. Nous sommes déréglés par les passions, par les instincts aveugles, malgré nous. Nous sommes incapables de faire ce que, physiquement et moralement, nous devrions pouvoir faire parfaitement. Si nous naissons dans ce monde déchu, ce n'est pas notre faute personnelle. Regardez les enfants, ils connaissent l'affliction. Les conséquences du péché originel se ressentent même en enfance. La tristesse qui nous vient du sentiment de la déchéance, elle nous fait réfléchir et nous conduit au repentir pour les péchés que nous commettons à la suite de nos ancêtres. Nous en venons donc à la question posée sur le sens théologique et spirituel du repentir. Du côté théologique, il s'agit de comprendre l'appel de Dieu à l'homme de se repentir. Ici, une rigueur de pensée est nécessaire. Du côté de la spiritualité, ça veut dire décrire les paramètres du repentir, les circonstances de l'homme qui répond à l'appel divin. Une clarté de vision est ici nécessaire. Je ne toucherai pas les problèmes de terminologie. Le repentir, la repentance, ce sont des mots qui viennent d'un mot latin qui veut dire presque. Le repentir, n'est-ce pas, la péninsule aussi possède la même racine. La pénombre, aussi la même racine. La pénurie, c'est de la même racine encore que le repentir. C'est-à-dire, c'est une plénitude qui n'est pas pleine, qui manque de quelque chose. Par contre, il y a un mot qui est peut-être mieux, c'est la conversion, le retournement. Et encore, je ne vais pas en traiter, c'est à vous de choisir. Donc, théologie en premier lieu. Considérons comme notion théologique initiale la constance de l'amour divin qui s'adresse aux pécheurs. Une lecture générale de la Bible nous révèle que Dieu entre constamment dans l'histoire humaine pour y prendre l'initiative d'action salvatrice et pour relever l'homme de ses chutes. Depuis les alliances successives de Noé, d'Abraham, Moïse, en passant par l'abondante floraison de références à l'amour et à la bonté divine dans les psaumes et les prophètes, pour aboutir à la grâce de la venue sur terre du Fils du Père Céleste. L'amour divin est seul en mesure de guérir l'homme de la blessure que le péché lui inflige et lui rendre la vie. Ancré dans cet amour sans limite, le pardon efface le péché. Par le pardon, l'homme est rénové et le péché perd sa substance. Le Dieu, saint, fort et immortel, s'approche de sa créature et touche de sa bonté sans borne le cœur, même le corps, de l'homme. Le miracle d'une renaissance spirituelle s'accomplit alors en lui. La constance de l'amour divin qui s'adresse aux pécheurs n'est pas nécessairement évidente à l'homme déchu et créé. Pour celui-ci, le don d'amour divin est toujours nouveau, constamment révélé et jamais acquis définitivement. Une attitude ascétique, je dirais même apophatique, s'impose, dont la démarche se présente ainsi. À tout instant, l'homme aimé de Dieu, aussitôt qu'il a perçu le don de Dieu, doit s'efforcer de ne pas se l'approprier. Sinon, il en ferait une image figée. À tout instant, il doit surmonter la tentation de transformer le don reçu en une notion élevée, en une image de béatitude. Un prêtre que j'ai connu me disait qu'il lisait l'Écriture sainte toujours à genoux. Ça veut dire en adoration réceptive, reconnaissante, je dirais apophatique, parce qu'il se vidait toujours pour recevoir l'Écriture sainte. Et je dirais encore une chose là-dessus. Si vous voulez, Dieu nous pardonne et nous guérit par son amour sans limite. Et je pense qu'il est des cas et qu'il est normal que les hommes aussi puissent pardonner de la même façon. Mais cela veut dire que ce n'est pas par notre amour que nous pardonnons. Il est des cas où les hommes acquièrent un amour surnaturel. Et c'est un amour comme ceci qui est seul capable de guérir et de redonner la vie. Nous ne sommes pas obligés d'être prêtres pour recevoir un tel amour. Nous pouvons être hommes, femmes, tous les fidèles. Chacun peut connaître quelqu'un qui possède cet amour surnaturel. Et je voudrais vous renvoyer à l'épître de Saint Jacques, dans ce fameux passage où est institué le sacrement de l'onction, où il est dit, après, quelqu'un parmi vous souffre-t-il, etc., etc., au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et maintenant, « La prière du juste, faite avec ferveur, a une grande puissance. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est l'amour de Dieu qui est entré dans le juste. Ceci est très important, et puis un peu plus tard, il est dit, « Mes frères, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité, et quand un autre le ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est l'action de Dieu. Donc je vous suggère une notion théologique de l'amour surnaturel dans l'homme, un don. Je passe à la spiritualité. Je commencerai par une citation. Je serai plus descriptif ici. Saint Silouan de la Tosse dit « Aujourd'hui, les gens sont devenus fiers et ils ne sont sauvés que dans le chagrin et le repentir. Et très peu nombreux sont ceux qui atteignent l'amour. » Le grand Antoine disait « Je ne crains plus Dieu, je l'aime. » Fin de citation. Donc le repentir mène à l'amour, c'est-à-dire il mène à la grâce déposée dans l'âme, il mène à l'abandon de soi. Tout maître spirituel émet sa propre définition du repentir. D'ordinaire, ces maîtres partagent une même vision de l'homme, mais ils sont souvent divers dans leurs expressions de la notion du repentir. Saint Jean Climac, abandon des choses passées et chagrin, affliction à leur sujet. Saint Isaac le Syrien, le repentir, c'est la seconde grâce, une seconde renaissance donnée par Dieu après le baptême. Saint Éphrem le Syrien, c'est une refonte complète de l'être. Et de nos jours, par Chimandrit Sophroni, le repentir, c'est les pleurs de notre être entier. Nous touchons à la ascèse classique. C'est une situation demandant un développement, c'est-à-dire d'efforts personnels et d'actions, une conversion permanente. C'est une refonte, un retournement, une mutation de la mentalité. Mais de quoi et pourquoi? Eh bien, à partir de notre état passionnel de base, comme nous naissons. Je dirais un terme peut-être moderne, c'est l'échange de notre constitution énergétique initiale qui est faussée à la base. J'entends l'assemblage des données vitales avec lesquelles nous naissons. C'est l'échange donc de cela pour une autre qui est le fruit d'une ascèse assidue. Ces profils énergétiques classiques ne sont pas applicables. Ainsi, le profil naturel est insuffisant parce que nous sommes en déchéance. Le profil surnaturel est inaccessible car l'homme est encore submergé de soi-même, en soi-même. Nous devons donc nous convertir, nous tourner et tendre vers l'état d'absence de passion, une sublimation des passions. Et je ne sais pas comment on dit en français « bestrastia ».
Impassibilité.
Comment ?
Impassibilité.
Impassibilité. Moi, j'avais écrit « dispassionnéité », excusez-moi. Impassibilité. Très bien. Voilà, c'est un état où il est presque impossible d'imaginer les passions. On se libère des passions. Et Vagre, le Montique, dit « L'amour est la plénitude de l'impassibilité ». Pourquoi est-ce que le repentir, ce changement dans le profil énergétique, est une expérience si radicale? On peut être torturé, rongé par le péché. Le repentir n'est que le début de la route, où la nature se change d'un état pervers en un état impassible. C'est une restructuration fondamentale, une cassure dans l'être et dans la conduite. Il faut littéralement renoncer à soi-même. Le blâme volontaire n'est pas suffisant. Il faut s'arracher à la captivité des passions. L'homme reconnaît la catastrophe et crie vers Dieu. On pourrait dire, sauf qui peut, et courons. Parce que c'est grave. Alors la miséricorde divine s'ouvre à nous. L'épître de Saint Jean dit, si nous confessons nos péchés, il, le Seigneur, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le cœur s'ouvre alors à l'espérance. L'archimandrite sophronie, la douleur extrême, s'allie à une joie sans borne. Nous pouvons aussi lire le canon de Saint-André de Crète. Je voudrais parler des circonstances qui entourent le repentir. C'est une économie élargie du repentir, et en premier lieu, l'affliction. Cette tristesse pour Dieu, une particularité marquante d'ailleurs de l'ascèse orientale syriaque, le don des larmes, la lamentation de l'esprit, c'est un fruit mûr du repentir profond et conscient. La lamentation, c'est l'affliction pleinement accomplie de l'âme repentante. L'Épître aux Hébreux parle du Christ. Le Christ, dans les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Saint Matthieu, comme nous l'avons chanté ce matin, « Bienheureux ceux qui pleurent », nous disons en français les affligés, car ils seront consolés. L'affliction mène donc aux larmes qui attendrissent le cœur sec. Alors, la lamentation se mêlant à l'affliction, n'y a-t-il pas un paradoxe? Nous pouvons nous demander, ne mène-t-elle pas cette affliction à la passion de la mélancolie, qui serait un péché? Non, en relation avec Dieu, ce sentiment acquiert un signe positif. Abba Isaïe, par exemple, dit « L'affliction vers Dieu est créatrice de joie. » Dans l'échelle, le septième degré est dédié au « pleur créateur de joie ». Et continue « La lamentation et la tristesse contiennent en soi joie et allégresse comme du miel en rayon de cire. » Il y a un mot que le Père Schmemann aimait beaucoup citer, qui est un mot grec, mais russe aussi. En russe, c'est « radostopetchal ». En grec, je pense que c'est « harmolite », et je ne parle pas grec bien. C'est cela. « Radostopetchal ». Donc, la lamentation de l'esprit accompagne les luttes avec les passions. Il y a aussi la prière dans ses diverses formes, même au-delà du porche du repentir. Saint Isaac le Syrien dit « La grâce des larmes, c'est la plénitude de la prière. » Il peut y avoir une version étroite de la conversion, un repentir limité aux péchés individuels, un repentir privé de larmes, non pas un retournement de l'être entier. Dans les contextes généraux de l'hésychasme qui appelle à la divinisation, séparer ainsi l'affliction du repentir, qui est l'affaire de tout chrétien, veut dire priver l'homme de sa divinisation. Transformer un appel général en enseignement particulier. La lamentation peut être spirituelle, pénitentielle ou psychologique, comme la nervose, l'hystérie, la pathologie. Le repentir est un phénomène ontologique où la nature créée et tombée cherche à se transformer en nature divine. Ceci, la psychologie n'est pas capable d'appréhender. Les souffrances du repentant ne sont pas pathologiques. Une autre circonstance du repentir, c'est son sérieux. Pour celui qui veut vraiment se repentir, il faut sans faute comprendre, concevoir ce qu'est le péché et son abomination. Sans cette compréhension, il n'y a pas de vrai repentir, comme il ne peut y avoir de guérison sans la conception de la maladie. Le repentir mène à la guérison et le guérisseur, c'est le repentant lui-même, Dieu étant présent dès le début. Je pourrais vous renvoyer à un article, à un chapitre très intéressant du Père Cyprien Kern dans son Anthropologie de Saint Grégoire Palamas, où il dit que c'est l'homme que l'image de Dieu dans l'homme se résume le mieux dans ce qu'il est créateur. Il est créateur même de son salut. Voilà ce que, dans les paroles de du Père Cyprien, Saint Grégoire Palamas dit. Dans la littérature élémentaire et populaire de prédication, on rencontre des simplifications. Même Saint Ephrem le Syrien invoque les souffrances éternelles comme moteur de repentir. Dans la vie, oui. Cependant, de nombreux pères, y compris Saint Ephrem aussi, placent le problème du repentir dans la vie et non pas dans la mort, dans la liberté et non la prison. Dorothée de Gaza, celui qui accomplit la volonté de Dieu par peur des souffrances futures, celui-là n'est qu'un débutant. Saint Isaac le Syrien dit « La crainte nous oblige au repentir, le repentir est le navire, la crainte c'est le timonier. » Cette crainte de Dieu est très différente de la peur existentielle, de la faiblesse d'âme, de la phobie. Cette peur-là, on doit la chasser. La crainte de Dieu, par contre, contient à sa base l'amour et non l'effroi. Un père a dit « Aie crainte de Dieu par amour pour lui » et non par frayeur devant son nom redoutable. La crainte de Dieu, donc. Dans l'Ancien Testament, c'est un sentiment central. Il crée un lien direct avec l'ascèse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse commence à prendre racine quand tu te rends compte de l'être, de la vie, plus que de l'existence empirique, et quand tu réagis. Chez les Grecs, cette découverte menait à l'étonnement, au désir d'apprendre, c'était une réaction de la raison. Chez les Hébreux, par ailleurs, c'était la crainte ontologique, la découverte d'une intégrité existentielle qui pousse à l'action. Mais le sujet propre de la crainte et le principe de l'action qui l'accompagne, c'est le Seigneur, c'est celui qui est, celui qui dit « je suis celui qui est ». On éprouve l'angoisse de l'insignifiance de sa propre personne créée et de la grande distance de celui qui est le Très-Saint. Je dis de moi-même, je suis celui qui a chuté, et par conséquent, je dois changer entièrement, je dois devenir totalement vivant, et ceci par le repentir qui est la sagesse vitale. La sagesse du chrétien n'est pas de savoir, mais action et vie. Le parfait amour exclut toute crainte, dit Saint Jean. Et finalement, une autre circonstance, la mémoire de la mort. Cette mémoire de la mort retient l'homme dans un esprit sobre, devant l'agitation, la vanité, le péché, et pousse à repentir. Jean Cassien, elle contribue à ne pas se décourager dans les malheurs et les afflictions et les ignorer parce que insignifiantes et de peu d'importance. Cependant, son propos à cette mémoire ne consiste pas d'adopter une indifférence philosophique. Sa tâche est de tuer la mort qui nous a tués, comme le dit Saint Ignace Brenchanino. La mémoire de la mort, aussi bien que la crainte de Dieu, écarte tout relativisme. Elle développe notre responsabilité existentielle et révèle à l'esprit humain la mesure et la valeur des choses. L'ascèse du renoncement au monde est une antithèse à un renoncement prétendu carnavalesque, si vous voulez, pharisien. Et ce développement, ce repentir n'a pas de fin. Le repentir est présent à toutes les étapes du cheminement spirituel. Saint Isaac, le Syrien, dit « Nous avons besoin du repentir les 24 heures du jour et de la nuit. » Saint Théophane le reclus « Nous ne pouvons pas être dans le monde avec Dieu sans un repentir constant. Nous devons nous repentir sans cesse. » Saint Silouane de Latos affirmait les mêmes choses. Fort de l'expérience de la contemplation, garde ton esprit en enfer et ne désespère pas. L'archimandrite Sophroni, sur terre, il n'y a pas de terme au repentir. Et l'archevêque Basile Krivoshein, tant que l'homme vit, il peut toujours tomber. Aucun état de sainteté, Aucune richesse de grâce ne le protège d'un retour éventuel au péché. Même dans l'état de impassibilité, la purification des passions s'opère grâce au repentir continu. Saint Théophane le reclus finalement pose la distinction entre, d'un côté, le repentir par ses propres efforts et le repentir dans la grâce. En résultat, il dit, il faut s'appliquer jusqu'à la fin, car il arrive soudain que même un fruit mûr est battu par la grêle. Et pour finir, je vous dirai deux anecdotes, si vous voulez, spirituelles. L'une que vous connaissez peut-être, c'est Saint Macaire d'Égypte, qui a vécu une vie très très dure de lutte contre les démons. Lui, il le connaissait très bien, il connaissait les démons, mais il est quand même arrivé au porche du paradis. Il a mis sa main sur la poignée déjà pour ouvrir la porte du paradis, et les démons lui dirent, « Eh bien, Macaire, tu nous as vaincus !» Il se retourne et dit, « Pas encore, il y a un pas !» Et il les a eus comme ça. Et le deuxième, la deuxième anecdote, le père Gelev Gillet, qui était maître pour faire des retraites. Vous savez, les gens s'assemblent pour un week-end et il leur raconte des récits spirituels. Voilà. Et alors, après la liturgie du dimanche, le matin, une dame s'approche de lui et dit « Oh, Père Lev, votre sermon était admirable !» Et lui répond « ne vous en faites pas, ma fille ou madame, je ne sais pas comment elle a dit, ne vous fatiguez pas, le démon m'a déjà félicité. » Merci.